Découvrez podcast.garden.
Ce podcast vous est offert par plateforme.garden,
l'app des pros de l'espace vert.
Bonne écoute.
Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue dans podcast.garden, le podcast qui permet de faire un point sur l'actualité de la filière et de donner la parole aux professionnels des espaces verts et terrains de sport. Nous poursuivons nos belles rencontres dans l'univers du sport avec récemment la découverte du réseau YouGolf, car nous voici ce matin à Pau, plus exactement à l'hippodrome de Pau, pour découvrir ce haut lieu des courses hippiques, mais également aborder l'entretien des pistes face à l'arrivée de la loi Zéro Phyto et de la loi sur l'eau. Alors comment s'adapte-t-il? Comment envisage-t-il l'avenir? Comment le digital leur vient en aide? Voilà un extrait des questions qui leur ont été posées. Nous sommes reçus par Jean Bouquer, directeur de l'hippodrome, et Justine Percha, chargée de mission CEPA à l'hippodrome de Pau. Bonjour à tous les deux, nous allons commencer par vous, monsieur Bouquer. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter, expliquer le parcours qui vous a amené à prendre la direction de l'hippodrome de Pau?
Oui, bah écoutez, bonjour à tous. On est aujourd'hui effectivement à l'hippodrome de Pau, bien connu, hein, hippodrome qui existe depuis 1832. Non loin, nous avons un centre d'entraînement qui fait quasiment 90 hectares et cet hippodrome de 40 hectares est inscrit sur le territoire. On est au cœur de Pau, au cœur du Béarn. Toute l'agglomération est quasiment autour et tout le monde connaît dans le Béarn et en France ce haut lieu des courses hivernales. Voilà, Jean Brouquer, moi je ne viens pas de ce monde. Là, j'ai fait une école de commerce, Subdeco à Montpellier, et puis derrière, j'étais plutôt destiné aux gestions des organisations. J'ai travaillé de nombreuses années chez Amaury Sport Organisation, entre autres le Tour de France. Voilà, j'ai fait un passage à Paris comme bon nombre de personnes, et puis je suis rentré dans ma région sur le bassin d'Arcachon, proche de Bordeaux, où j'ai pris la direction de l'hippodrome de la Teste pendant 3 ans et demi, et je suis arrivé ici en 2012 à Pau en tant qu'adjoint au directeur. Et donc ça fait 10 ans que je suis ici et 8 ans en tant que directeur. Voilà. Donc on a plaisir de vous accueillir et puis ça s'inscrit dans cette période où on se pose des questions et on essaye d'être raisonnable et raisonné.
Et nous sommes ravis d'être parmi vous ce matin. Quelques mots également sur ces installations et la fierté de posséder finalement un pôle d'excellence avec le centre d'entraînement de Pau-Serre, mondialement reconnu.
Écoutez, oui, c'est mondialement reconnu. Au centre d'entraînement, c'est plus de 600 chevaux qui s'entraînent. De grandes victoires grâce aux entraîneurs présents, hein, dont Jean-Claude Rouget qui a encore gagné le Jockey Club cette année avec un cheval qui a été entraîné pendant toute sa période, sa jeune période. Ce sont des entreprises avec plus de 400 personnes au quotidien de façon directe ou indirecte qui vont monter les chevaux, les soigner. Il y a un centre vétérinaire, il y a un centre aussi, c'est la FASEC, pour accueillir les jeunes. Enfin voilà, des entreprises qui travaillent au quotidien et c'est une vraie fierté d'avoir ce centre d'entraînement. C'est notre fil rouge, hein. Tous les matins on se lève, on va à 6h du matin au centre d'entraînement, c'est magnifique. Je vous engage à venir, à tous ceux qui vont nous écouter, à venir le découvrir. Et puis l'hippodrome, c'est le lieu du sport, c'est le lieu où vont se passer les courses uniquement l'hiver. Mais néanmoins, on y reviendra peut-être tout à l'heure, un hippodrome vit tout au long de l'année, c'est pas parce qu'il n'y a pas de course, voilà. Et puis les courses, vous savez, c'est un programme sportif où on nous dit un petit peu quel sera le programme, quand et comment. Donc ces pôles d'excellence, ils existent depuis de nombreuses années, je le disais, 1832, il y a eu des évolutions, mais il y a eu toujours eu cette adhésion locale pour faire de Pau un écrin et on va dire un pôle d'excellence.
Effectivement, le cadre est magnifique, nous l'avons dit, vous l'avez dit aussi. Dans ce lieu se déroulent 27 jours de course avec un point d'orgue qui est le Grand Prix. Une fréquentation moyenne de 3000 spectateurs, tout proche des 9000 personnes pour le Grand Prix. Quelles sont les activités annexes que vous proposez, justement, vous en parliez, tout au long de l'année, puisque les courses n'occupent que 2 mois du calendrier d'octobre à novembre?
L'hippodrome, c'est la société des courses de Pau, c'est 4 activités. L'hippodrome, le centre d'entraînement, 2 activités majeures. Et les 2 autres activités, on a une activité où on fabrique du compost. Donc on s'occupe de la gestion des fumiers frais. Et la 4e activité, c'est les activités annexes. Et dans les activités annexes, nous avons les locations de salles, l'accueil d'entreprises. Nous avons également des événements grand public, des événements, on va dire, outdoor, qui nous permettent de faire vivre notre site tout au long de l'année. Voilà. Donc on a des salles, on a un lieu, et c'est un lieu que les gens affectionnent de venir le découvrir. Et je pense qu'on est qu'au début de ce que l'on peut faire, parce qu'on a 40 hectares devant nous, c'est un écrin, et je pense qu'on a, on a la nécessité, on a le besoin de communiquer et de montrer qu'il vit et il se passe des choses au sein même de l'hippodrome. Voilà. Et cette découverte, ça peut être un angle dans les années qui vont arriver.
Comme beaucoup, la filière a été lourdement impactée par la pandémie. Et on sait que ça représente à ce jour 75 000 emplois et 22 pour le seul hippodrome de Pau. Comment avez-vous fait face à cette crise ?
Bah écoutez, deux choses déjà. La première, comme toute entreprise, il a fallu s'adapter, être agile, se concentrer sur les priorités. Oui, la filière est une grande filière où il y a plus de 75 000 emplois. Je citerai aussi qu'il y a plus de 245 hippodromes en France. Voilà, c'est une filière qui vit grâce à deux entités que sont les parieurs, hein, qui vont jouer donc au PMU, et également les propriétaires éleveurs qui, c'est leur dada. Donc c'est leur plaisir, c'est leur loisir. Voilà. Ceci étant dit, pour nous, on s'est occupé des pistes, tout simplement. Les chevaux étaient là, il n'y avait plus de course, mais on s'occupait de la gestion des pistes au quotidien. On n'a pas pu faire de gros travaux, les travaux d'infrastructure ou les gros entretiens ponctuels n'ont pas pu être faits, et on s'est réduit, si je puis exprimer cela, à faire l'entretien courant. Voilà. Et puis bien sûr, c'est notre priorité, c'est les chevaux, c'est la sécurité, donc tout ce qui peut être sable, donc on s'est relayé les pistes de sable, on s'est relayé pour que l'entretien soit parfait pour les chevaux qui n'ont pas cessé de sortir. On peut pas laisser un cheval pendant des jours dans un box, donc il a besoin de se sortir, il a besoin, un cheval il est né pour être dehors, voilà. Donc ça, on a ce sens là, on a ce sens de et la connaissance du cheval qui est bien entendu notre fil rouge au quotidien.
Nous avons répondu aujourd'hui à l'invitation de Justine Perchat, ingénieure agronome chargée de mission auprès de l'hippodrome pour deux thématiques qui touchent les pelouses sportives, à savoir la gestion de l'eau et la loi zéro phyto. Commençons par la loi zéro phyto qui prendra effet, on le rappelle, à compter du 1er janvier 2025. Quel enjeu pour les hippodromes cela implique-t-il ?
L'enjeu, il est majeur, le zéro phyto, on est très sensible à ça. On est déjà engagé dans ce processus, clairement. Je le disais, l'hippodrome, c'est 40 hectares de verdure. Le centre d'entraînement, c'est 60 hectares. On a des surfaces bien plus grandes avec les bâtiments, mais on est au cœur de l'agglomération. On a plaisir à organiser des événements pour le grand public, mais aussi pour les enfants. Donc, on a cette conscience de se dire qu'il faudra y passer. Et je pense que les marches ne sont pas si hautes pour y arriver, tout simplement. Il y a beaucoup de bon sens à avoir. On est engagé, et vous le disiez, on a déjà franchi des étapes avec l'arrivée de Justine, puisqu'on fait beaucoup de travaux mécaniques. On sait que le côté mécanique et l'entretien quotidien est une base pour arrêter les phytos. Et puis, je pense aussi, on est engagé là-dedans dans le sens où notre cahier des charges ou la façon dont on voit nos pistes est différente dans le sens où on arrête de prêter le flanc à quelques adventices ou à quelques éléments qui effectivement nous sautent aux yeux, mais qui finalement aux yeux des professionnels ne le sont pas. Donc il faut avoir cette hauteur de se dire, mais finalement, est-ce que quelques adventices ou est-ce que quelques erreurs ici ou là ou présence de plantes, c'est pas préjudiciable à notre activité. Si personne ne vient nous voir et si on sait qu'on est en phase avec notre cahier des charges, et bien entendu on y reviendra sur la sécurité des chevaux et des utilisateurs, à partir de là il n'y a pas d'intérêt à mener une stratégie du tout. Voilà, je crois que ça aussi c'est un peu un mal, je ne sais pas si c'est franco-français ou un mal humain, de se dire on veut tout comme ça ou tout bien, tout parfait. Non, la vie n'est pas parfaite, on le sait tous, et la nature elle s'adapte et elle vit ce qu'elle a à vivre, donc à un moment donné il faut arrêter de mener cette politique du tout au tout.
En amont de cette interview, vous nous faisiez part que l'eau était pour le coup la plus problématique. On le voit avec la loi sur l'eau, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette dimension ?
Oui, je pense que c'est le plus gros problème. Comme on le disait, les maladies, et le phyto et l'eau. l'eau. Je pense que l'eau, c'est l'élément numéro un. Vous le suivez, l'actualité, c'est la chaleur. On est dans un pic de chaleur. On passe des nuits ici à Pau à plus de 20 degrés. Il va faire peut-être 40 degrés d'ici peu. Voilà, on a besoin quand même d'avoir une gestion raisonnée de l'eau. Alors, on en parlera un peu plus tard entre les différentes gestions, puisqu'entre le centre d'entraînement et l'hippodrome, c'est totalement différent. Ici, on est sur une gestion raisonnée de l'eau, et c'est-à-dire la plante, qu'est-ce qu'elle a besoin, alors qu'à sur le centre d'entraînement, tous les matins, il y a des chevaux qui s'exercent sur les gazons. Là, par contre, on a besoin de l'eau qui amène la souplesse. Donc, on est forcément en surarrosage. Et puis, bien sûr, la ressource, ici à Pau, c'est assez connu. Il y a peu de ressources, on va dire, dans les 10-12 mètres hein, en sous-sol. Donc, ici, nous avons de l'eau de la ville, ce qui est assez problématique. On consomme énormément d'eau. Néanmoins, on a des réserves que nous faisons tout au long de l'hiver, mais vous voyez, on est déjà passé à l'eau de la ville, alors qu'habituellement, on ne le fait que début du mois de juillet. Donc aujourd'hui, on est sensible à ça, on se pose des questions. On n'a pas la solution actuellement, mais on a entrepris des discussions avec les collectivités, avec l'agence de l'eau, pour progresser sur ces éléments-là. Je pense qu'aussi, ça passera par sensibiliser et adapter l'entraînement aussi pour les entraîneurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent un gazon tous les jours impeccable. Est-ce qu'on ne peut pas différencier un petit peu ça, sachant que y a déjà assez d'eau pour la plante? Voilà. Donc c'est un vrai enjeu pour les prochaines années. On en est conscient, ça fait partie des objectifs.
On voit l'entretien donc étroitement lié au souci de préserver la santé des chevaux et accessoirement du jockey, vous venez de le dire, et ainsi éviter le cauchemar de tout responsable de piste, la blessure qui peut s'avérer fatale.
Alors, c'est un point crucial. La sécurité, c'est notre priorité, que ce soit pour le cheval ou les utilisateurs. Je reviendrai juste par rapport à la question que vous formulez. Il est toujours difficile de connecter et de relier la blessure à l'état du terrain. Je dis également une chose qu'il faut prendre en compte pour ceux qui nous écouteront. Le cheval ne parle pas et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un grand sportif qui va se faire mal sur un match de rugby, sur un match de football, est-ce que c'est à ce moment-là un coup ou est-ce que c'est la somme des problèmes récurrents? On entend tous parler actuellement de y a trop de matchs, l'équipe de France, ils ont trop joué, il y a trop de matchs au rugby, voilà. Donc, je veux juste désamorcer un peu la question en disant, attention, c'est pas parce qu'il y a un problème sur une piste avec un cheval que forcément c'est la piste qui a induit cette problématique. Également aussi, ce qu'il faut savoir, le cheval pèse 500 kg, c'est à plus de 50 km/h, et donc effectivement, les blessures vont être beaucoup plus problématiques qu'un autre sportif. Et on le voit, hein, chaque sport a un peu ses problématiques physiques et ses blessures. Donc, pour revenir à votre question, oui, nous avons énormément d'éléments mis en place en termes de cahier des charges, de suivi, de vétérinaires, d'urgentistes qui vont œuvrer tout au long des journées de course, mais également au quotidien, notre travail, c'est de mesurer l'état des pistes, qu'elles soient de gazon ou de sable. Donc nous avons, si vous voulez, on est beaucoup plus dans de la compétence, à savoir est-ce que les sables sont pas trop profonds. J'ai toujours cette image d'expliquer aux gens, c'est un peu comme à la plage, vous savez. Au bord de plage, c'est dur. À l'extérieur, c'est trop profond et au milieu, c'est très bien. Mais c'est un peu ça notre travail sur les sables et les gazons également. On a ce qu'on appelle un pénétromètre. On a aussi un clegg. On a des outils pour mesurer clairement le travail que nous faisons, puisqu'on sait que ça va avoir un impact au quotidien sur les chevaux. Voilà. Donc ça, c'est maîtrisé. On a des équipes compétentes en la matière.
En cette année qui s'annonce extrêmement tendue, quels impacts peuvent avoir les arrêtés préfectoraux d'interdiction ou de restriction des arrosages? Comment préparez-vous l'avenir finalement?
L'avenir, clairement, moi je le vois, on peut pas se passer de l'eau. Clairement, si aujourd'hui et demain sur le centre d'entraînement, on coupe l'eau, c'est pas possible. On va générer des problématiques avec les chevaux. Donc je pense que ça passe, on abordait la question tout à l'heure, par une nouvelle façon de gérer nos pistes. Ne pas être du tout au tout dans le sens tous les matins, c'est le même standard. On sait que les chevaux, c'est comme un sportif, il y a un plan d'entraînement, c'est-à-dire qu'il y a des journées, et je le dis aux équipes, il y a des journées phares, les mardis, mercredis, vendredis, samedi, c'est des journées où les chevaux travaillent énormément. Le reste du temps, on est plutôt sur de la récupération. Donc, je pense qu'il y a un travail collaboratif à avoir avec les entraîneurs, avec les gens qui sont autour des chevaux pour mettre en miroir ce que l'on propose et ce qu'a besoin le cheval. Voilà. Donc c'est à mon avis que les balbutiements de tout ça, ça n'existe pas encore. Mais si aujourd'hui on veut avoir une gestion raisonnée et raisonnable de l'eau, si on veut éviter un jour qu'on nous dise ça ne va pas, il faut couper le robinet, je pense que ça passe par ce travail de collaboration.
Votre particularité de travailler avec des chevaux hyper entraînés, que l'on imagine également fragiles. Comment accompagne-t-on ces sportifs de haut niveau dans ces conditions extrêmes comme la canicule précoce que nous traversons actuellement ?
Oui, c'est une très bonne question, une question qui est au cœur de la semaine quasiment. Je voudrais juste revenir sur un point hyper entraîné. On pourrait penser à ce que ça soit surentraîné. Pas du tout. Le cheval est un sportif géré par des professionnels où il y a des phases hautes, des phases basses, des phases de récupération. Effectivement, actuellement, c'est une grande période parce que le mois de mai, juin, il y a énormément de courses partout. Donc, les chevaux se sont entraînés pendant tout l'hiver pour être prêts pendant cette période-là. C'est comme une saison sportive. On le voit, on est dans les phases finales de beaucoup de sports collectifs. Et donc, ces chevaux, ils sont gérés. Et face à la canicule, par exemple, on met énormément de choses en place actuellement. L'adaptation des horaires. On a remonté les horaires. Les chevaux sortent actuellement vers 6h moins le quart du matin. Et quasiment, on va dire, à 11h, c'est fini. Donc, avant le pic de chaleur, on va également énormément arroser l'ensemble des structures d'entraînement. On a de l'arrosage automatique, mais on va redoubler l'arrosage à la tonne à eau des accès, de nombreuses zones qui ne sont pas arrosées automatiquement. Et ça va permettre de garder une certaine fraîcheur des pistes. Voilà. Donc il y a aussi un travail adapté de nos pistes pour éviter qu'elles soient profondes. Voilà, il y a un travail spécifique qui est dédié pendant ces périodes de chaleur, mais on consomme énormément d'eau à cette période.
Dernier point, celui de la communication. À la différence des golfs, on ressent peut-être moins d'appétence de la part des passionnés d'équitation pour la question de la biodiversité et l'usage des produits phyto. Est-ce que l'on se trompe ?
Bah, j'ai envie de dire, c'est ce que vous pensez. Moi, je le pense pas du tout. Ouais. Moi, je pense que clairement, vous savez, un entraîneur ou nous-mêmes, notre métier, c'est l'observation. Le cheval ne parle pas, le gazon ne parle pas, personne ne parle. Et je pense que on revient sur des notions très simples. Je le disais aussi en préambule, moi j'ai fait une école de commerce, j'ai pas fait une école agricole ou autre. Et je pense qu'on est clairement dans du bon sens paysan, c'est-à-dire l'observation, arpenter les pistes au quotidien, écouter, comprendre, regarder, tendre l'oreille sur ce qui peut être fait, sur un bruit d'un cheval. Voilà, et on travaille avec des entraîneurs aussi qui sont au quotidien dehors. Donc clairement on est à mon avis plus que sensible et à notre environnement et à le préserver et voilà donc alors est-ce que les golfs sont plus ou moins ou mieux que nous, je sais pas, mais moi j'ai plutôt la conviction que on vit au quotidien avec l'environnement et je vous engage à venir un matin sur les pistes quand le soleil se lève et vous verrez qu'à 8h du matin vous avez l'impression d'être mieux réveillé que tout le monde parce que vous vous êtes réveillé avec la nature. Donc ce bon sens paysan, c'est quelque chose qui est dit ici au sein même des équipes et je leur dis voilà, adaptabilité, agilité, ce bon sens paysan, c'est ce qui nous sauvera. Et puis pour finir, je pense quand même, pour un peu aller un peu plus loin dans votre question, que oui, il faut qu'on éduque, il faut qu'on sensibilise. Et tout simplement, si les gens n'arrivent pas à voir, parce qu'effectivement, ils ont une autre culture, une autre éducation, il faut clairement, et vous nous le montriez tout à l'heure, tout simplement par des moyens au niveau digital ou autre, vidéo, photo, quand quelqu'un passe à un endroit, de lui dire, tiens, regarde. Comme si on lui tendait la main en lui disant « Regarde, appuie là-dessus, on va te montrer qu'aujourd'hui, cette information ou ce que tu ne peux pas voir, viens le découvrir. » Voilà. Je pense qu'il faut le faire. Alors, c'est des lames de fond parce que c'est pas simple. On se bat contre beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut le faire et il faut pas l'occulter. Voilà. Donc, c'est pas donné à tout le monde, mais il faut mettre des moyens là-dessus pour éduquer, sensibiliser les gens. Et petit, moi, je vois, j'ai des enfants qui sont en bas âge et aujourd'hui ils arrivent, ils reviennent, ils me parlent de recyclage, donc de tri. C'est marrant, moi il y a plus de 40 ans de ça, je rentrais pas chez mes parents en disant tiens il faut trier. Donc il y a une éducation à avoir et je pense que c'est de la responsabilité de tous.
Très bien, je rebondis sur le fait que vous parlez des outils digitaux finalement qui amènent une plus-value qui permet de mieux communiquer, de passer pas mal de messages. On a vu dernièrement la mise en place d'un système de tracking pour suivre de près la performance des chevaux. Et vous utilisez également des outils d'épidémiosurveillance comme notre application Platform Garden. Quelles sont les opportunités, vous l'avez dit hein, plus ou moins, mais quelles sont les opportunités que le digital vous laisse entrevoir pour la suite ?
Alors sur le digital, avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur une dernière idée, c'est de dire on fait rien sans personne. Voilà. Et aujourd'hui, si on peut s'inscrire et se projeter vers de nouveaux objectifs qu'on a vus au travers de cette interview et qu'on va voir tout au long de la journée avec vous, c'est d'avoir une équipe dédiée. Voilà. Et une équipe qui évolue, qui se pose des questions et qui avance. Et donc c'est cette matière grise qui nous amène tous et c'est ce partage. Et je pense qu'on a souvent eu tendance à bloquer les informations, les rétentions, voilà. Moi, je pense que c'est beaucoup plus positif de les partager et de les échanger. Et à ce titre, avec l'arrivée de Justine qui vient compléter les équipes, et oui. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes et d'autres ingés agricoles qui viendront remplir les bancs, on va dire, des hippodromes, c'est ça qui est positif. Voilà. Et donc, l'organisation aussi c'est, de cette journée, c'est Justine qui l'a mise en place, et c'est pour ça que je voulais lui passer la
avec
parole
plaisir.
Pour finir et répondre à vos questions et à cette question pour partager, parce qu'on n'est rien sans personne et c'est cette force collective qui nous emmène plus loin.
Oui, le digital est un moyen, mais l'humain reste le plus important. Nous sommes d'accord sur ce point. Et donc, merci Justine, merci de nous avoir programmé ce rendez-vous. On vous laisse la parole, du coup.
Merci à vous d'être venu déjà. Sur le digital, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent s'offrir à nous sur les hippodromes ou je pense dans toutes les entités sportives qu'il faut saisir pour pouvoir faire progresser les terrains tout en s'inscrivant dans une démarche agroécologique entre guillemets et de toujours rentrer dans notre cahier des charges et de garantir que ce soit aux sportifs, aux utilisateurs, un spectacle époustouflant, mais également un terrain de très bonne qualité. Donc aujourd'hui, toutes ces opportunités-là, il faut savoir les saisir, dont le digital, qui, à mon avis, peut nous faire progresser, nous, pour être plus précis dans la gestion de nos terrains.
Oui, tout à fait.
Aujourd'hui, on doit s'inscrire là-dedans. On y est déjà et on essaye de progresser et aussi de faire, de diffuser de l'information, de réussir à communiquer entre les différentes filières, mais aussi nous, de réussir à communiquer auprès de nos utilisateurs. Ce qui fera que, un, on pourra optimiser notre travail, ce qui va nous faciliter beaucoup de choses, et en plus de ça, qui va pouvoir nous aider à communiquer auprès de la filière.
Oui, on voit le pouvoir de la communauté, finalement, de l'entraide entre les différents professionnels de l'espace vert, du monde sportif. En tout cas, bravo, effectivement, vous êtes dans le vrai. Poids de la communication aussi, très important. Voilà, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé. En tout cas, nous, on vous remercie, on était ravis d'être parmi vous ce matin. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à passer à la filière. Je vous donne une dernière fois la parole à l'un ou l'autre.
Bon, aujourd'hui, je pense que il y a de la communication à faire entre les filières. Ce qu'il faut, c'est surtout communiquer. Chaque entité doit prendre sa responsabilité et communiquer auprès de ses utilisateurs. Donc voilà, c'est un peu le mot de la fin.
Un message bien, bien engagé et on l'a bien reçu. En tout cas, nous, c'est ce que l'on fait également au travers de Platform Garden, c'est de donner la parole à la filière. Et c'était le cas ce matin avec vous. Merci infiniment et nous disons à très bientôt pour un lever du soleil sur l'hippodrome. On vient de noter l'invitation. Merci à vous et à très bientôt.
Merci.
Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir prêté l'oreille et d'être resté avec nous lors de cette rencontre à l'Hippodrome de Pau. Nous vous invitons à découvrir l'intégralité de nos podcasts sur l'application Platform Garden dans le fil d'actualité et désormais sur les différentes plateformes de podcasts comme Deezer, Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts, entre autres. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt.
Nous vous invitons à télécharger l'app Platform.Garden sur l'App Store ou Google Play.
Et découvrir tout l'univers Platform Garden sur le www.platform.garden.
www.platform.garden.